Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était que de travailler avec Roland. Alors, peut-être Francis d'abord, parce que toi, tu étais, tu étais le, je crois, le premier à éditer Roland.
Oui, plus ou moins, puisque ça fait beaucoup de temps à passer depuis, j'ai abandonné la Cagoule. Et je suis quand même historique. C'est-à-dire qu'on peut tout révéler au bout de quelques années. Et Roland, nous sommes connus très jeunes, à l'aube des années 80, et c'était quelqu'un qui avait déjà une grande frénésie d'écriture et qui a fini par publier rapidement des textes, des nouvelles, dans des fanzines qui étaient... assez modestement imprimé, certains renéotés à l'alcool encore, et donc qui présageait d'une obsolescence très rapide. Et moi, j'ai toujours aimé le livre, lui avait la frénésie de l'écriture, moi la frénésie du livre constitue du volume. Et je me suis rapidement substitué à lui pour fabriquer des fanzines. Lui avait commencé avant moi avec Gary Shankar, je l'ai aidé pour certaines couvertures. Et on s'est retrouvé très rapidement dans une espèce de folie. Roland avait beaucoup d'humour, moi nettement moins, mais il était fascinant et il m'a proposé très rapidement de reprendre certains textes et de les organiser en collection, en particulier le cycle du fandom. Le cycle du fandom était paru dans le fanzine Vaupaliec de Patrice Véry, qui était un angevin qu'on ne voit plus depuis longtemps. Et
on le voit plus souvent
que je ne vois plus depuis longtemps. Et donc, l'idée de faire une série boutade nous est apparue assez rapidement, et de reprendre chacune des nouvelles sous une forme de livre, vous voyez là, à gauche, et de sortir du fanzina et de publier des inédits. C'est une formule qui a assez bien marché sur des bases très rustiques, c'est-à-dire que je me contentais de reprendre les manuscrits de Roland, de les mettre vaguement en page, de les emballer dans une couverture avec une grosse vanne. Par exemple, c'était le cycle du fandom, donc on avait dessiné un vélo sur la couverture. C'était l'humour de Roland et ça me faisait beaucoup rire. Moi, honnêtement, moi, c'était l'auteur.
Je mente.
Je pense que.
Quelle mente.
À un autre niveau, ça va être très.
Il t'a forcé.
C'est moi qui fais ce vélo. Tant qu'à être dans la grosse blague, on va aller jusqu'au bout et on va peut-être intriguer les gens. Et finalement, cette aventure a débouché sur une quinzaine de volumes. Alors très, très, très modeste, mais assez amusant. Malheureusement, il est arrivé une période où Roland a publié, malheureusement pour moi, a publié professionnellement et donc n'a plus eu le temps de se consacrer à ces fantaisies-là. Et puis, de toute façon, son esprit avait légèrement changé et il était plus attaché à une œuvre qu'à une fantaisie. Il a produit pour moi plus tard d'autres ouvrages, mais qui s'insèrent dans sa chronologie du futur, ou qui sont des textes à part, mais sérieux. Et nous nous sommes retrouvés sur le plan de l'humour, si l'on peut dire, qu'à deux autres occasions. La première, c'est quand je me suis mis à publier des pastiches de Beaumorade, que vous connaissez ici. Je vois des auteurs de Beaumorade, de Beaumarode. Et Roland en a écrit un, mais qui est tout à fait différent des autres et qui est en fait qui s'intègre parfaitement dans son univers à lui et qui n'est pas vraiment un pastiche de Beaumorade. Encore qu'il connaissait le personnage plus que certains des auteurs des pastiches. Et puis j'avais une certaine attirance à l'époque pour la chanteuse allemande Nina Hagen, et commencé une série et dont il a écrit le quatrième volume et qui s'intégrait aussi dans son univers musical. Alors il n'appréciait pas forcément la chanteuse, mais ça lui permettait de faire le lien avec ce que nous a raconté Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire cette facette musicale de son œuvre. Et c'est un bouquin qui est assez réussi, mais qui devait appeler des suites et qui n'a pas eu le temps d'écrire. Et enfin, le troisième volet de notre collaboration se situe à nouveau dans le pastiche,
c'est quand, avant de devenir Jimmy Gueux lui-même, il a décidé d'écrire un pastiche des auteurs historiques du fleuve Noir qui étaient Richard Bessières et Jimmy Gueux. Et donc il a produit deux pastiches assez courts mais assez amusants de ces auteurs que j'ai publié dans un format assez proche de celui du fleuve Noir des origines et que j'ai envoyé à Richard Bessières ainsi qu'à Jimmy Gueux en disant qu'ils étaient le fait d'un admirateur de leur prose, ce qui n'a pas dû leur plaire, n'a pas dû vraiment comprendre l'humour, et j'ai reçu deux lettres de menace m'intimant de ne pas continuer dans cette voie suite. Une de Jimmy Gueux et une de Fleuve Noir, je crois, parce que Jimmy Gueux a dû faire suivre le dossier auprès de l'éditeur compétent. Et tout ça sans savoir que quelques années plus tard, cet auteur insolent allait le remplacer à la machine à écrire. Voilà. Et donc ça a été nos collaborations principales, avec toujours, de temps à autre, des rencontres, avec des promesses de textes à venir, mais je dois dire que je n'ai jamais insisté parce que je savais que d'une part, il n'avait pas le temps, et d'autre part, moi, je ne lui donnais rien pour ces volumes-là. Il n'était pas payé, il recevait quelques exemplaires. Bon, il avait besoin de vivre, c'est quelqu'un qui tirait toujours le diable par la queue. Et bon, tout le plaisir que je pouvais avoir à éditer ce qu'il me donnait n'était pas suffisant pour l'empêcher de travailler. Et donc, même si notre projet le plus abouti aura été une réédition du cycle du fandom, une réédition complétée, dans la mesure où il aurait beaucoup de travail à accomplir, nous n'avons pas été plus loin que les projets. Il en reste quand même une vingtaine ou un peu plus de volumes que j'ai eu beaucoup de plaisir à éditer, ainsi que des romans plus tardifs qu'il n'a pas réussi à placer auprès des éditeurs et que j'ai donc publié de façon à ce qu'ils existent et qu'ils puissent remplir quelques lignes bibliographiques supplémentaires et être tenus en réserve si le besoin est pour la publication, pour une publication ultérieure. Voilà, j'ai fini.
Pour ma part, j'ai pas été beaucoup éditeur de Roland de son vivant, en vérité. Bon, j'ai un peu travaillé avec Roland sur Bientôt la marée, c'est une anthologie. C'est un formidable souvenir d'un séjour de quelques jours à Pau, où Cathy était en poste à l'époque. Ils étaient dans une chambre d'hôtel. Voilà, ils m'ont hébergé, c'était bien amusé. J'ai publié ceci, Faire part, donc une plaquette de trois nouvelles, dont une qui n'a pas encore été rééditée d'ailleurs. Mais j'ai peu travaillé avec Roland. Et puis, à vrai dire, je l'avais un petit peu, ouais, un peu perdu de vue lorsque j'ai créé Les Moutons électriques. Et puis, quand même, bon, je l'avais quand même contacté pour qu'il m'écrive deux articles pour un gros bouquin sur le space opéra que je préparais. Il avait été abominablement en retard. Mais bon, les deux articles étaient excellents, évidemment. Et puis, un jour de 2008, Roland m'a appelé. Il avait vu les tirages limités cartonnés sous jaquette que je faisais. J'en avais fait un pour Michel, pour le Casino Perdu. Il avait vu ça, il avait trouvé ça très beau, et Roland avait envie que je lui fasse ça. Et il voulait que je lui fasse ça sur Poupée aux yeux morts, parce que Roland, à savoir donc ce roman-là, Roland savait à quel point j'adorais Poupée aux yeux morts parce qu'il l'a écrit lorsque Cathy et lui étaient à Garches, donc cet appartement en rez-de-chaussée qu'on a évoqué plusieurs fois. J'ai beaucoup squatté chez Cathy et Roland à l'époque, et vraiment beaucoup. J'ai donc suivi pas à pas l'écriture de Poupée aux yeux morts. J'en ai lu quantité invraisemblable de versions. Il y a même des morceaux que je regrette bien qu'on n'ait pas gardés. parce qu'il était parti sur un... À un moment, il avait bifurqué sur un aparté qui était trop long, que je lui avais fait couper. Je regrette malgré tout qu'on n'ait pas gardé cet aparté. Bref, il savait combien j'aimais ce roman. Il m'a dit, ah voilà, tu pourrais pas me faire un petit tirage comme ça. Et je l'ai fait, évidemment. Je sais que Roland a été très heureux de recevoir cet ouvrage un peu luxueux. Cependant, lorsque j'avais accepté de faire ce tirage limité, je lui avais dit, écoute, il n'est plus en librairie, ce roman, c'est superbe. Moi, quand je pourrais, en 2008, je remontais Les Moutons électriques après une quasi-faillite, donc c'était pas encore le moment. Mais je lui avais dit, écoute, quand les moutons se porteront bien, que dès que je pourrai, je rééditerai Poupée en librairie. Je le fais le mois prochain, c'est cette édition qui est là, que j'ai fait la plus luxueuse possible, donc cartonné, toilé, cousu, sous jaquette, etc. Donc ça va paraître incessamment. Pour l'édition de 2008, Roland avait retravaillé le texte assez profondément, avait donc établi ce qu'il estimait être une édition définitive, donc voilà, je réédite l'édition définitive. Bon, évidemment, Roland publié chez La Talente, mais il a aussi publié chez quelqu'un qui est en retard, à savoir Jérôme, chez ActuSF. Et j'avoue, je suis assez possessif comme éditeur, entre autres, et j'étais un peu, bon, seulement un peu, hein, faut pas exagérer, mais un peu jaloux du fait que Roland avait fait rééditer de ses œuvres de jeunesse chez ActuSF. Et je prévoyais d'en parler avec Roland quand on se verrait, on ne s'est pas revu. Il faut savoir qu'en 2008, lorsqu'il m'a recontacté, ça a remis en place toute notre amitié. C'était une chose formidable, quoi. Vraiment, on s'est retrouvés comme si on s'était jamais perdu de vue, quoi. Il m'a appelé plein de fois. Sylvie aussi m'a appelé longuement une fois. C'était chouette, quoi. On était redevenus, on s'était pas fâchés, hein, du tout, mais on était vraiment redevenus proches comme ça. Et je m'étais dit, la prochaine fois je le verrai, mais je ne l'ai pas revu. Je lui parlerai à la fois de Poupée. Bon, il avait donné son accord pour la réédition librairie, la couverture et tout ça. Mais je lui reparlerai de Poupée et je lui parlerai des autres, parce que j'avais très envie de publier Le paysage déchiré, Les derniers jours de mai, ce genre d'œuvre. J'ignorais qu'en fait il en avait déjà parlé à Jérôme Vincent de chez ActuSF. Bref, et à sa disparition, donc j'en ai parlé à Natacha et j'ai signé avec Natacha pour donc l'ensemble du cycle de l'histoire du futur proche et du faisceau chromatique, donc toutes ses œuvres de jeunesse. Et avec Sarah Doak, on vient de commencer, avec l'aide aussi de Philippe Caille. Avec Sarah, on va réunir en fait tout ça sous forme de 3 gros volumes, avec les nouvelles afférentes, avec des extraits d'entretiens vraiment, avec des articles, avec voilà, on va faire vraiment une intégrale raisonnée. On va aussi publier derrière un volume de miscellanée, voilà, des tas de documents, d'articles, etc. Il faut que j'aille chez Philippe d'ailleurs pour fouiller dans la collection de Vopaliek parce que je ne les ai plus. Voilà, donc post-mortem hélas, mais voilà, je rends hommage à Roland en rééditant. Donc je les ferai une fois par an, les gros volumes. Je les publierai plus vite en numérique à cause du chantage constitué par le plan Relire, qui m'obligeait à les publier précipitamment. En revanche, bon, je voulais les publier relativement vite, les 3 volumes, et en fait, Jérôme Vincent, lui aussi, a acheté les autres œuvres de jeunesse de Roland, l'Espèce Opéra, la Cincé, par exemple, dont parlait Jean-Marc, et il n'y a pas la place sur le marché pour qu'on publie Wattmill, Roland Wagner dans l'année, il ne faut pas délirer. Donc on s'est entendu l'autre jour, et par exemple, l'an prochain, il y aura le premier volume de l'intégrale des œuvres de jeunesse, un livre de poche pour le nombril du monde, que voilà, bravo le synchronisme, donc chez Helios, et un volume encore chez ActuSF, vraisemblablement. Et moi, donc, je publierai 2 autres volumes de l'intégrale une fois par an. Voilà, c'est ma seule expérience d'éditeur avec Roland, malheureusement, sans Roland.
Mireille.
Hugo Bell. Isabella Gamba me disait à l'instant, mais quand même, tous ces éditeurs, vous êtes de Roland, vous pourriez quand même peut-être faire un omnibus complet. Voilà, et très beau. Alors, tu vois, je lui ai répondu, ça, c'est pour les moutons électriques. Bon, ben voilà, c'est le fait. On peut peut-être continuer, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai effectivement une expérience en temps continu avec Roland, après à partir de 98. Bon, j'ai rencontré Roland forcément chez Annick Béguin, comme la plupart des gens de science-fiction, des auteurs de science-fiction que je connais. C'était à Cosmos 2000, et voilà, c'est là que j'ai rencontré Roland. Mais effectivement, il était très heureux au fleuve à l'époque, c'était début des années 90. Et on a commencé à travailler ensemble vers 98, puisque nous, la première publication, c'est, je pense, Le Chant du Cosmos. Hein. Hein, et ça, c'est une parution 99. S'en est suivi, effectivement, chanceux pour moi, je l'avoue, l'arrêt des activités du fleuve. Et moi, en fait, le livre emblématique, c'est l'Odyssée de l'Esther. J'avais, donc, quand il m'a dit... je peux peut-être m'arranger pour qu'on me rende les droits. J'avoue que voilà, c'était mettre au catalogue pour moi un auteur emblématique. Je n'ai pas hésité un instant. Donc effectivement, après, il fallait à la fois la réédition, à la fois la nouveauté. On les publiait du coup, on prenait la balle du néant, on prenait la suite. Et il rajoutait les nouvelles, puisque cette histoire du futur, s'il y a été question, comprenait donc les nouvelles et il les réintégrait au bon endroit en fin de volume ou en début de volume, selon les cas. Donc voilà, je dois à Roland donc, d'avoir l'expérience avec Philippe Cazard, qui effectivement n'a pas fait une couverture chez nous de Roland, c'est Rêve de gloire. C'est la faute à Francescano qui est pied noir. Donc voilà. Pas toujours gagner sur tous les points. Et non, mais c'est vrai que Roland là-dessus était relativement. Enfin, voilà, il savait toujours Roland, il savait toujours exactement ce qu'il voulait faire. Donc ce temps continue, c'est une quinzaine d'années. Et du coup, bah, ça ressemble. De toute façon, la vie avec Roland, quand il s'agit. Elles ont d'autres éléments, mais elles se ressemblent tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des relations très intimes où effectivement il sait plus de choses de vous que nous on sait de lui. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Et en fait, en plus, l'avantage d'un éditeur, c'est qu'il n'est pas obligé d'être aussi cultivé que l'auteur. Donc pour ce qui est des références musicales, je viens d'une toute autre planète, mais je publie aussi Pierre Bordage et en sport, je suis une brève. Donc, toutes les références sportives, allez-y, il y en a. Moi, je connais des copains très sportifs, ils peuvent tout décoder chez Pierre Bordage grâce au sport. Voilà, donc, pour ce qui est du goût de musique. Mais bon, il s'est mis à la musique métal tardivement, donc peut-être que vous pourriez y arriver. Voilà, donc effectivement, Roland, ce temps continue avec Roland, c'était un temps plein. Hein. Roland, moi j'ai 15 ans de vie d'éditrice où l'œuvre de Roland m'occupe continuellement, puisque Roland écrivait, rendait des textes auxquels il n'y avait quasiment rien à toucher. Simplement, tous ces textes-là étaient mûris pendant des mois, des années. Et il avait plusieurs lignes de narration personnelle. Enfin, de toute façon, c'est le multivers, la preuve du multivers, pour l'oralien. Effectivement, continuellement, alors j'ai déjà dit, je crois, aux Utopias l'année dernière, en fait, pendant ces 15 années-là, ça m'a pris peut-être 2-3 ans. Hein, j'ai tenu Le Chant du Cosmos et après, je notais toutes nos conversations au téléphone. C'était 2-3 fois par semaine. Hein. J'écrivais tout, puisque 6 mois après, il pouvait me dire, dis donc, l'idée dont je t'ai parlé, alors lui, quoi. Et moi, je reprenais mes notes et je reprenais la conversation, la date, pour pouvoir suivre ce qu'il me disait et lui dire, oui, t'as raison, non, cette scène-là, à mon avis, tu l'oublies, parce que je n'avais pas de texte. C'était dans l'oralité, finalement. Le suivi, en fait, d'œuvres, le suivi d'écriture de Roland était essentiellement oral. Et voilà, c'est une expérience unique hein, pour moi d'avoir vécu ça. Et sachant que Roland, effectivement, s'adaptant à tous ses interlocuteurs, donc moi, représentant une maison d'édition déjà un peu installée, mais étant quelqu'un... moi, je l'ai rencontré, j'ai 6 mois, j'avais 6 mois de plus que lui, quand même. C'est pas important. Si je peux signer le contrat, c'était du bon côté du crayon, et j'avais 6 mois de plus. Mais on s'est rencontrés, on avait 35 ans, à peu près. Hein. Et, donc, du coup, je veux dire, moi, Roland, voilà, on n'était pas du tout, on n'était pas du tout des mêmes milieux, pas du tout avec la même culture, et c'était tout le temps trouver les rapprochements. Alors, nous avons eu cette chance, en fait, d'avoir des enfants du même âge. Mon dernier fils a un an de plus que Natacha. Et par exemple, j'ai fait des choses improbables avec Roland qui, quand il a commencé à habiter Cognac, passait par Nantes. À l'époque, il n'y avait pas de train aussi facilement. Il ne pouvait pas laisser Natacha voyager seule. Aller en voiture, il était très prudent. Et voilà, il ne le faisait pas pour que Natacha n'ait pas trop de voyage voiture. Donc, il s'arrêtait à Nantes. Et donc, nous passions un jour, 2 jours ensemble avec des enfants du même âge, hein, Natacha et François. Donc, j'ai fait des choses incroyables avec Roland Wagner. Tu te rappelles de la mi-carême? Un jour, on était à une mi-carême de Nantes avec nos 2 enfants. Roland était à ce point populaire qu'il pouvait aller à une mi-carême. Voilà. Donc, c'était étonnant. C'était étonnant, ces choses qu'on faisait ensemble.
Faut expliquer ce que c'est
une mi-carême. Une mi-carême, parce que c'est une manifestation donc, populaire où il y a des chars qui défilent avec des reines de Nantes, avec un roi carnaval, avec des confettis, voilà, des bombes débiles qu'on peut mettre dans les cheveux. Il s'est amusé comme un fou. Comme un fou. On est rentré alors dans un état. Voilà, donc ça c'était quand même Roland et tout un tas de discussions. Donc moi du coup, ben, voilà, Roland était à la maison. Donc Roland fait partie des rares personnes avec qui je fumais. Puisqu'on était là le soir, les enfants étaient couchés, je risquais pas grand-chose en allant jusqu'à mon lit. Et donc voilà, Roland, c'est quand même toutes ces choses-là. On n'avait aucun goût musique. Enfin, on n'a même pas essayé pour la musique, hein, je rassure. J'écoute un peu des cantates de Bach tous les dimanches matins. Et voilà, donc c'était remarquable. Après, effectivement, aller vers Rêve de gloire, c'était finalement ça. On a vécu ensemble. Et ça a commencé très bizarrement. Parce que finalement, Rêve de gloire, tout le monde savait que ça aurait lieu. Hein. Mais je n'étais pas. Voilà. Je ne pense pas qu'il y avait d'éditeur prédestiné pour Rêve de gloire. Et effectivement, un jour, on allait et on revenait avec ma voiture de Nantes à Brest pour une. Il était invité par une bibliothécaire, Patricia Mébel. Voilà, je cherchais le nom de Patricia, pour une réunion, une rencontre avec des lecteurs. Et à l'époque, j'avais une Volvo 240, donc il conduisait, parce que je déteste conduire. Et on fait l'aller, et au retour, il y avait du boulot au bout, donc pas de dispersion. Au retour, il me dit, à peu près au niveau de Quimper, moi, je suis excessivement bretonne. Et il me dit, il y a eu un panneau à un moment à l'aller. C'était marqué Hennebont. Bon, je suis de la rivière d'Étel. De tout. Voilà, de ce pays-là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, je connais Hennebont. Ok. Je dis, moi aussi. Il me dit, on peut sortir. Ouais. Donc, on sort à Hennebont. Et il me dit, j'ai habité là, à Hennebont, en arrivant d'Algérie. Mon père travaillait aux forges, il y a des forges derrière Hennebont. Il me dit, je suis sûre que j'ai habité là. Bon, voilà, on est allé et on a retrouvé lui a retrouvé la maison où il habitait. Donc, à quel âge avait-il? Sa maman pourrait le dire, mais dans ma mémoire, ce serait de l'ordre de 4-5 ans.
Oui, c'est un autre sens.
Hein, voilà. Et voilà, alors on a passé du temps dans cette ville, que moi je connaissais extrêmement bien. Et lui, en train de raccrocher ses souvenirs d'enfant de 4-5 ans. Et voilà, et là on a commencé à parler de gloire vraiment. Bon, ça, c'est une chose qui m'est revenue en écoutant les uns et les autres. Et donc, voilà, Rêve de gloire, c'est ce que vous avez lu, j'espère. Et je vous encourage à lire les textes du train de la réalité. Parce que volontairement, on ne les a pas mis, mais on les a gardés. Mais entre-temps, l'informatique, je regrette. Parce que ces textes sont exceptionnels, littérairement parlant. Roland avait un tel sens de lecteur qu'il ne voulait absolument pas. Il ne voulait jamais faire la piste aux étoiles. Un roman avait son propre rythme, sa propre identité. Et il ne voulait absolument pas que Rêve de gloire soit autre chose que ce roman polyphonique qui a, avec cette fluidité. Mais il y avait ces textes, et quand il a commencé en septembre, on a publié en mars avril. Rêve de gloire, on a publié en septembre. En septembre, tout d'un coup, il me dit, tu sais, tout l'été, j'y réfléchis, parce que Roland n'était pas un velléitaire, hein, il avait des tas de projets, et ce n'était pas de la vérité, simplement, voilà, ces lignes de narration. C'était vraiment un roman vivant. Et tout d'un coup, il pouvait complètement se concentrer sur quelque chose, il attendait que ça arrive. Il me dit, ces textes-là, il faut absolument qu'ils soient publiés. Voilà, bon, je relis quand même, mais évidemment, il y avait deux de pas terminés. Et bon, bah, je tombe sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Et je lui ai dit, écoute, oui, maintenant on peut. Et voilà, on les a publiés. Ce sont des choses qui prouvent à quel point Roland, en plus d'être un écrivain qui maîtrisait la langue française comme peu d'autres, simplement jamais avec Roland les choses ne se voient. Tout est totalement fluide. Là, dans ceux-là, il y a carrément des performances littéraires dans ces textes. C'est complètement éblouissant. Et effectivement, moi, je vais terminer là-dessus. J'ai dans mon bureau deux choses de Roland importantes pour moi. D'une part, un cadeau de Casa, je remercie encore, qui est que j'avais en fait pas mal d'œuvres de Casa dans le bureau. Et quand il les a demandées pour faire un magnifique... magnifique chose qu'il a faite avec, le magnifique livre, coffret, voilà. Le portfolio, merci. Je lui ai dit, écoute, oui, bien sûr. Simplement, il y en a un que j'ai encadré, c'est le Maèdre de dos, parce que Philippe avait fait le Maèdre de devant et de dos. Et il me dit, garde-le. Donc voilà, merci, j'ai le Maèdre de dos. C'est quand même très émouvant. Voilà, ce Maèdre qui s'en va. Et j'ai autre chose mais qui est moins jolie, mais j'ai tous les prix de Rêve de gloire, parce qu'à chaque fois, il n'avait pas le temps, non, c'était pas le moment, non, attends, on va arranger avec Sylvie, et puis on va peut-être déménager, enfin bref. Et donc, les utopias, elles se terminent. Et donc, j'ai cette... Alors, qui est très, très... Il y a le trophée des utopias, que vous voyez brandir quelque part, avec le prix de l'imaginaire rangé dedans. Et avant de lui envoyer, et évidemment, j'ai traîné, et là aussi, ça a été trop tard, j'avais conservé dedans l'article de West France du lundi qui suivait les Utopiales. Dans cet article de West France, il y avait une double page. Il y avait d'une part Roland Wagner, cette photo sans doute, hein, avec le point et le trophée des Utopiales. Et vraiment, mais là, hein, dans l'autre page, parce que le dimanche soir, pour se terminer les Utopiales, il y avait un concert de Patti Smith au lieu unique. Voilà. Cœur m'a très gentiment donné une place, je n'ai pas pu y aller, il fallait remballer. Donc j'ai loupé ce concert, et vraiment, il y a Roland dans ce sens que vous voyez, là, c'était la page de gauche, Patti Smith qui le regarde. Et c'était hallucinant, juste hallucinant. Donc j'avais été racheté un deuxième restaurant, parce que je suis abonnée à Et donc, et c'est là, dans le. Donc, Natacha, tu récupéreras un peu plus tard le trophée des Utopiales. Voilà, je le garde pour l'instant avec le prix d'imaginaire. Et puis, cette double page West France que je n'ai pas postée à temps. Donc, il savait, je vais tout raconter, il ne s'est pas vu faisant face à Patti Smith à propos de Rêve de gloire. Enfin, voilà. Je pense que. L'analyse musicale l'a prouvé que c'était la bonne idée. Évidemment, personne. Ça encore, c'est du Wagner. Excusez-moi. Mais que c'est ça ne pouvait arriver qu'à Roland, quoi, cette chose. Et puis c'est tout. Il a déjà dit qu'il t'en voulait.